Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors si c'était un animal, serait-ce un tigre, un lombric, une praire, une méduse, un ornithorynque, une punaise ou une oie cendrée? Estivalitude, c'est en tout cas la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour pendant l'été sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Anna Krisch, vous êtes journaliste et romancière, vous signez un livre percutant, Un monde nouveau, paru chez Julliard. Bonjour Anna Krisch.
Bonjour.
Fabrice Midal, vous êtes philosophe et bouddhiste, mais aussi écrivain et éditeur. Votre dernier livre, Narcisse n'est pas égoïste, est sorti chez Flammarion. Bonjour Fabrice Midal.
Bonjour.
Avons-nous droit au bonheur? Le bonheur qu'on nous offre est-il frelaté? Comment sublimer le quotidien, l'amour de soi? On y a droit, tout ceci, de tout ceci, ce matin, nous parlons à deux voix. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Alors Fabrice Midal, vous avez découvert l'existence d'Anna Krisch ce matin dans le studio?
Absolument.
Absolument, vous n'aviez pas lu Anna Krisch?
Non.
Vous la connaissiez pas?
Non.
Vous savez qu'elle a écrit quatre livres, quatre romans?
Ben, je l'apprends.
Ben oui, et le dernier est formidable, ça s'appelle Un monde nouveau, on va en parler tout à l'heure. Et vous, Anna Krisch, vous connaissiez Fabrice Midal?
Je savais que nous étions invités ensemble, donc je me suis un peu renseignée.
Oui, vous l'avez
sur
googlé.
Le dossier. Oui. J'ai googlé, c'est j'ai ça. Regardé ses livres.
Oui.
Son visage, je l'ai écouté parler
et qu'est-ce
sur Internet.
Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ben non, je suis ravie de le rencontrer et de me familiariser avec ses écrits.
Alors je dirais que vous avez un point commun un peu paradoxal, c'est le narcissisme, puisque Anne, vous dénoncez, dites-vous, un certain narcissisme du selfie, tandis que Fabrice, vous, bah, vous défendez le narcissisme en disant qu'on en a besoin. Alors vous aviez déjà publié, Fabrice Midal d'ailleurs, sur ce thème du narcissisme, un livre qui s'appelle « Sauvez votre peau, devenez narcissique ». C'est quand même déjà tout un programme, le titre, on peut
oui.
dire, c'est un manifeste. Hein.
Oui, je...
Oui. J'aime bien comme réponse, c'est court, au moins ça a le mérite de la brièveté, c'est presque un haïku.
J'étais frappé, après avoir écrit « Foutez-vous la paix », de voir que les gens avaient beaucoup de mal de se faire confiance, de se retrouver. Et que j'étais étonné d'un seul coup que tout le monde dise qu'on est une société où les gens sont trop narcissiques, quand je voyais moi des gens qui voulaient trop bien faire, qui se poussaient à bout, qui avaient causé plus dire non, que les nouvelles maladies actuelles sont... Voilà, le burn-out, le stress, une manière des formes d'auto-exploitation de soi-même. Et qu'on est dans une société très normative. Et je trouvais que la condamnation actuelle du narcissisme manque complètement les nouveaux phénomènes d'oppression. Et en particulier le fait justement de cette normativation qui fait que c'est très difficile de pouvoir être soi. Donc ça, c'était dans le précédent livre. Et puis l'année dernière, j'ai fait une série d'été à France Culture sur Narcisse. Et là, je me suis...
Le livre Narcisse voilà. n'est pas égoïste pour lequel vous venez nous voir ce matin.
Et là, j'ai fait une enquête. J'ai remonté comment liste en Occident Narcisse a été lu, vu, écouté. Et là, à ma stupeur, jamais dans toute l'histoire de l'Occident, Narcisse n'est devenu la figure qu'il est chez nous, celui d'une forme d'égocentrisme pervers. Et qu'au contraire, il a toujours été la figure de la métamorphose, hein, puisque Narcisse apparaît dans la métamorphose d'Ovide, c'est une figure de la métamorphose, du renouveau. Et donc, Narcisse, c'est la nécessité d'être suffisamment ancré en soi pour pouvoir dire non, pour pouvoir se révolter, pour pouvoir être vivant.
Puis dites rejeter Narcisse, c'est rejeter une force dont nous avons besoin.
Absolument, mais c'est des choses qui aujourd'hui choquent beaucoup, mais même la psychanalyse avait montré qu'il y a un narcissisme absolument... nécessaire si l'enfant n'est
pas... Il faut
pas
s'aimer, quoi, en quelque sorte.
S'aimer, ou disons, habiter sa propre existence. Parce que s'aimer, bon, ça peut tomber dans un truc... S'aimer... au moins
il vaut mieux s'aimer que se détester, avouez.
C'est clair. Mais disons, s'aimer, mais aussi être suffisamment en paix avec soi. Et il y a vraiment, à mon avis, un malentendu énorme. On fait croire que si on était, disons, narcisse, dans ce sens-là, de cette rencontre avec l'énigme de notre propre existence, on serait fermé aux autres. Mais comment on peut écouter les autres, les aider, si on n'est pas un peu en rapport à soi? Et au fond, mon idée, c'était d'essayer de montrer que Narcisse est le contraire de l'égoïsme. On est égoïste parce qu'on est coupé de soi, parce qu'on n'ose pas rentrer dans la profondeur de la terre pour essayer de se rencontrer, la profondeur de la terre, de l'existence. On n'ose pas rencontrer ses propres ombres. Et donc, c'est ça qui fait qu'on devient égoïste.
Alors, pourtant, en 2019, quand on dit narcissique, les trois quarts des gens et beaucoup de nos auditeurs disent pervers narcissique. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'un film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Olivier Ducastel était venu nous voir dans Estivalitude il y a quelques jours. Et son film Au Perché sort sur les écrans le 21 août. C'est un film sur un pervers narcissique. Et Olivier Ducastel nous a autorisé à diffuser un petit extrait de ce film dans lequel la comédienne Manika Auxir raconte ce que lui fait subir un pervers narcissique.
Très souvent, il m'accompagnait pour faire mes courses. Et un jour, à la caisse, il a voulu payer. Et alors là, j'ai pas compris, quoi. Il venait jamais manger à la maison. C'était mes courses, je sais pas pourquoi il aurait payé, ça avait aucun sens qu'il paye. Et puis là, j'ai compris. J'ai compris et j'ai tout revu dans ma tête. J'ai revu cette façon qu'il avait de glisser un regard de connivence aux autres couples qu'on croisait comme si nous aussi on était comme eux. Un couple qui fait ses courses et qui s'affiche en faisant ses courses. Il y a même des trucs que j'ai achetés, mais que j'aimais pas du tout, tu vois, mais que j'ai achetés parce que lui, il les aimait. Il venait jamais manger à la maison. Et je savais qu'il viendrait jamais. Il me donnait l'illusion. Ouais, c'est ça. L'illusion qu'on était un couple, le temps de faire mes courses.
Alors vous, Fabrice Midal, quand vous écoutez ça, vous dites en fait les pervers narcissiques ont détourné Narcisse.
Oui, ils sont pervers, mais Narcisse c'est le nom d'une fleur, c'est le nom de la première fleur du printemps. Comment un pervers pourrait être nommé du nom d'une fleur? Ça n'a juste pas,
je
pas
me
de
demande.
Sens. C'est vraiment un malentendu. C'est un malentendu. Il faudrait parler de pervers. Oui, il y a des pervers, mais ils sont pas narcissiques. C'est pas des gens qui s'aiment. Alors disons même un truc tout bête. Est-ce que quelqu'un qui est pervers s'aime? Non, il s'aime pas. Il en doute. Il a besoin de l'autre pour construire une image de lui qui est manquante, qui est déficiente. Donc ça n'a pas de sens.
Alors que vous vous dites au contraire, il faut d'abord se rencontrer pour ensuite aller à la rencontre des autres.
Il faut au moins être un peu. Si jamais vous aimez un ami, vous aidez un ami qui est gravement malade et que vous-même vous êtes dans un état de stress total, vous allez avoir du mal d'être présent à lui. C'est un peu de bon sens. Il faut juste être un peu faire la paix avec soi un minimum pour pouvoir être disponible pour les autres.
Il y a une autre forme de narcissisme dont on parle aujourd'hui, c'est le narcissisme lié aux réseaux sociaux, lié à YouTube. Et ça, c'est un lien qu'on peut faire avec vous, Anna Krisch, parce que dans votre livre « Un monde nouveau », sur ce roman dont on va parler à clé, qui est plus qu'un roman, vous évoquez à un moment donné une YouTubeuse qui vend ses reflets de selfie. Alors on peut dire peut-être que le selfie, c'est une forme de narcissisme, on va voir, mais je voudrais juste vous faire entendre un tout petit reportage, je crois, de France Inter, ou de France Info plutôt, me dit Julien. Non, de France 2, voilà, je vais y arriver, qui avait été réalisé il y a quelques années.
La Tour Eiffel, l'un des monuments les plus photographiés au monde. Mais depuis quelques années, la grande dame n'attire plus les regards de la même façon. Pour la prendre en photo, on lui tourne le dos. C'est la frénésie du selfie. Au fil de la journée, nous avons observé le phénomène. Il est 10h du matin et déjà, le selfie bat son plein.
Pourquoi vous faites des selfies comme ça?
On est jeunes.
On est jeune. Vous voulez faire des selfies, c'est un truc de jeune?
Oui. Normalement, c'est un truc de jeune, mais après, ça fait. Tout le monde a commencé à en faire.
Oui.
C'est la mode.
Et vous le trouvez réussi? Il est bien?
Pas trop, parce qu'on voit pas beaucoup la Tour Eiffel du derrière, en fait.
Selfie ou not selfie?
Selfie.
Ah oui, selfie. Selfie tout le temps.
Ah bon, alors, Anna Krisch, le selfie, c'est du narcissisme?
C'est une forme de narcissisme, oui, mais c'est aussi la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée ce matin à France Inter. Je me suis prise en selfie devant votre logo. Donc c'est plutôt une manière de vivre et c'est ce qu'on a tendance tous à faire et à se mettre en scène et à se raconter une nouvelle histoire dont on est le héros.
Fabrice Midal, on est dans une société hyper narcissique aujourd'hui?
Non, on est dans une société normative. J'ai quelqu'un qui avait lu, quand il a lu mon livre, il m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, ma fille fait beaucoup de selfies. Je lui dis depuis des mois pourquoi elle est aussi narcissique. En lisant votre livre, j'ai eu un choc. Elle est absolument pas narcissique, elle ne s'aime pas. Et c'est pour ça qu'elle se photographie en permanence. Et à partir du moment où je lui ai dit, mais pourquoi tu as un tel doute de toi? On a pu rentrer dans une conversation en disant aux gens qui font des selfies toute la journée. Je parle pas de gens qui font des selfies de temps en temps, mais qui ont un doute profond sur leur image. Quand on leur dit que vous êtes encore trop narcissique, c'est comme si on les enfonçait encore plus dans leur douleur. Si on leur dit « Mais pourquoi vous avez un tel doute ?» Pourquoi vous êtes coupé de vous-même? Là, on a une chance de les aider. Donc, j'essaye de plaider en essayant de dire, il faudrait dire plutôt comment certains réseaux sociaux nous manipulent au point que nous sommes dénarcissisés par eux. Ça serait beaucoup plus aidant.
Vous dites qu'il ne faut pas confondre le narcissisme et l'ego surdimensionné.
C'est le contraire.
Ouais.
L'égocentrisme, c'est que vous êtes tout le temps en doute de vous-même et donc vous voulez soit que les autres vous disent que vous êtes génial, soit vous les torturez pour qu'ils vous renvoient une image positive, tandis que le narcissisme, vous êtes en paix avec vous et vous arrêtez de faire chier le monde.
Et d'ailleurs,
et si on avait des sociétés de gens qui étaient suffisamment en paix avec eux, ça irait beaucoup mieux. Et c'est tout ce que nous dit, ce qui est absolument étrange, c'est qu'on a l'impression que je dis des trucs qui vont à l'encontre de tout ce qu'on raconte, mais c'est ce que nous dit le mythe, c'est ce que nous dit toute la poésie, c'est ce que nous dit l'histoire de l'art, c'est ce que nous dit la psychanalyse. Il est insensé. Ce malentendu pose énormément de problèmes parce que ça culpabilise tout le monde.
Tout vous expliquer. Delgrès est un groupe de blues créole fondé par Pascal Danaé et le nom du groupe Delgrès fait référence au militant anti-esclavagiste guadeloupéen Louis Delgrès et c'était l'Amnéla.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Anna Krige, votre livre Un monde nouveau, j'ai dit tout à l'heure que c'était un roman, mais en fait c'est pas du tout un roman, pas vraiment. C'est plutôt, je dirais, une série de séquences, de nouvelles qui dépeignent en réalité notre monde.
Oui, c'est 13 personnages qui travaillent tous pour la même entreprise et qui vont chacun à leur manière faire découvrir une des façades du monde dans lequel on vit, ou en tout cas celui que j'avais envie de décrire.
Et un monde qui est loin d'être agréable.
En tout cas, où chacun essaie d'être heureux et de trouver sa place dans le monde, mais où chacun échoue dramatiquement.
Échoue dramatiquement. Alors j'ai pensé tout de suite en vous lisant à une série télévisée, enfin une série maintenant si on peut dire sur Internet, très célèbre qui passe sur Netflix, qui est Black Mirror, et c'est d'ailleurs votre référence principale. Alors je vous propose d'écouter un petit extrait de Black Mirror.
C'est plus un discours, c'est carrément l'overdose de mielleux.
J'ai seulement envie de faire plaisir à Naomi pour son mariage.
Mais bien sûr, c'est surtout du racolage pour que tous les coincés qui vont t'écouter te filent la note maximale.
Naomi était ma meilleure amie.
Arrête.
Eh oui, c'est vrai. Si en prime, ça me rapporte un max de points de la part de ses amis populaires, je vois pas où est le mal.
C'est quoi ton objectif? Tu vises combien? 4.3, 4.4...
Oh, génial. Mon taxi s'est barré. Il m'a mis une sale note, j'ai plus qu'à m'en trouver un autre, et en prime, je perds des points. Bravo, super.
Oh, ben excuse-moi si je te préférais quand t'étais normal. Bien avant cette obsession de la note, quand on discutait pendant des heures, tu te souviens?
Il me faut mon chargeur.
Toute cette histoire de notation, je trouve que c'est... Comment tu peux vouloir te comparer à...
T'aurais pas vu mon chargeur?
À des gens qui font semblant d'être heureux.
Alors c'est un monde, cet épisode de Black Mirror décrit un monde dans lequel tout le monde note ou évalue tout le monde, comme on le fait aujourd'hui sur Instagram, Facebook ou Twitter, en disant j'aime ou j'aime pas. Et donc c'est ce système-là, sauf que dans ce monde-là, donc chaque fois qu'on est noté, on gagne des points. Alors quand on a beaucoup de points, on devient quelqu'un d'estimé, on devient une superstar, une hit girl ou un hit boy. Et quand on a de mauvaises notes, on finit en prison, c'est ça?
Oui, c'est un épisode particulièrement angoissant de Black Mirror. Et c'est vrai que c'est déjà un peu le monde dans lequel on vit, avec ce système de notation généralisée. Dans mon livre, il y a un personnage qui s'appelle le Happiness Manager et qui conduit des entretiens d'évaluation.
C'est le nouveau nom que vous donnez au DRH.
Que je ne donne pas, qui existe, qui est une fonction qui existe dans l'entreprise aujourd'hui. Et donc c'est très amusant ce glissement sémantique. On passe de directeur ou directrice des ressources humaines à... responsable du bonheur, ça en dit long sur la manière dont on envisage le travail.
Un bonheur formaté, Fabrice Midal. On n'est pas du tout dans la quête du bonheur dont vous pouvez parler, vous.
Absolument, c'est pas du tout le bonheur au sens philosophique de donner du sens à sa vie. Et c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. Dans une entreprise, on veut de la justice. Ouais. On veut être reconnu.
Ouais.
Moi qui travaille beaucoup sur les violences au quotidien, au fond, c'est pour ça que je me suis tourné sur Narcisse. Une des choses qui m'a le plus étonné quand on recherche une des manières d'éviter le burn-out, c'est la reconnaissance. C'est étonnant. C'est pas d'enlever forcément de travailler moins, mais que les gens soient reconnus. Et ce qui les conduit à bout, c'est le fait de ne plus être reconnus comme des êtres humains. Et donc je pense que là, on voit bien que ce que les gens ont besoin, c'est d'être... reconnu, d'être respecté et d'un sens de justice. Donc là, il y a un malentendu profond sur ce qui est en train de se passer.
Alors, ce que vous décrivez, Anna Krish, aussi, c'est une vie quotidienne éventrée, on pourrait dire, des gens qui cherchent bonheur, mais qui n'arrivent absolument pas à y arriver. Alors, il y a une histoire, par exemple, c'est une fille qui tombe amoureuse d'un garçon, mais à ce moment où de conclure, entre guillemets, il veut lui faire signer un contrat sexuel.
Ah oui, cette histoire-là. Oui, parce qu'en fait, oui. J'aborde différents traits de notre époque. Sûr. Et là, c'est sûr, c'est un peu cette terreur des hommes et des femmes aujourd'hui autour de l'acte sexuel, ou en tout cas de la séduction, et de quelle manière aujourd'hui on va pouvoir continuer à se séduire et à vivre des histoires sentimentales dans un cadre
parce
qui devient non, de
non
plus
seulement
plus,
il faut qu'elle signe un contrat, mais en plus, le contrat stipule qu'elle ne peut faire l'amour qu'en présence de plusieurs personnes qui peuvent attester.
Oui, absolument. C'est la pénétration ne peut que se faire en présence de témoins.
Oui, c'est épouvantable votre histoire. Alors il y a une autre histoire assez incroyable, c'est un nommé Gaspard qui pratique la sylvothérapie. Alors qu'est-ce que c'est la sylvothérapie? Écoutons ce petit reportage.
En vous promenant dans la forêt, avez-vous déjà songé à enlacer les arbres? Toucher leur écorce? Une tradition japonaise ancestrale. Entrer en communion avec les arbres pour se ressourcer et peut-être même rester en bonne santé.
Commencez à l'embrasser, l'entourer de vos bras. Laissez l'arbre vous soutenir.
J'y trouve beaucoup de sérénité. D'ailleurs, j'ai beaucoup baillé tout à l'heure.
Un instant paisible, un temps de paix. C'est ça, en fait, un temps pour soi.
On ne fait rien, ce n'est pas théorique, ce n'est pas mental. On vient et on sent qu'on est vivant. Et ça a quelque chose de magique.
Alors le problème là, c'est que c'est merveilleux de d'enlacer un arbre. Enfin moi, je pense que ça. Moi, je vais peut-être le faire en sortant. Je vais voir si je trouve autour de la maison de la radio un arbre à enlacer. Le problème, c'est que vous avez un de vos personnages qui s'appelle Gaspard, qui va tomber amoureux de l'arbre.
Et sa femme va le quitter.
Et voilà. Et sa femme va le quitter parce qu'il ne pense plus qu'à l'arbre. Et là, il y a un drame dans sa vie épouvantable. C'est quoi?
C'est que l'arbre tombe malade et qu'on le coupe.
On coupe l'arbre.
Mais vous riez, mais c'est terrible.
Non, mais j'imagine le drame de cet homme qui tombe amoureux d'un arbre et on coupe l'arbre. Enfin, vous imaginez, c'est absolument épouvantable. Alors, il y a un sujet aussi intéressant. C'est, je sais que vous avez beaucoup travaillé, Fabrice Midal, sur les spiritualités orientales au sens large. Vous avez vu, je vous le vends avec beaucoup de douceur. Et il y a une femme dans le roman ou le livre d'Anna Krish qui part en Asie chez un gourou pour atteindre la sérénité. Alors, et on lui fait faire plein de trucs. Elle a des journées, mais c'est pire que l'usine, où il faut méditer, courir, méditer 5 minutes, repartir, faire du sport, etc. Et en fait, c'est un peu un gourou escroc. Alors, Fabrice, vous avez fondé une école occidentale de méditation. Pourquoi est-ce que un personnage comme le personnage d'Anna Krish, par exemple, finalement n'arrive jamais à la méditation?
Ça, je peux pas savoir, mais si. Parce que la méditation, c'est comme vous venez de raconter, un truc qui est devenu complètement idiot. On a l'impression que c'est un impératif du bonheur, ou alors maintenant on voit qu'il faudrait méditer pour gérer son stress. On marche sur la tête.
C'est comme ça.
Si les gens ne géraient pas déjà tout, on devrait gérer son compte en banque. Et le reste, on devrait avoir une relation. Gérer ses émotions, c'est juste d'une barbarie totale. Il faut écouter ses émotions, il faut les embrasser, faire la paix avec elles, les entendre. Mais ce truc la méditation est devenue une sorte de technique complètement déshumanisante. Et donc, quand j'avais fondé l'école occidentale, je voulais essayer de montrer que méditer, c'est se foutre la paix. C'est arrêter de se mettre de nouvelles injonctions. C'est au fond redevenir humain. Faire la paix avec notre propre humanité. Et que c'est quelque chose de très simple et très ordinaire. Et on fait de la méditation un truc tellement compliqué. Alors que, au fond, ma grand-mère qui, le soir, regardait en hiver le feu de cheminée, en été, regardait les étoiles en se posant, en restant quelques minutes en silence, et qui avait pas besoin de faire des selfies pour envoyer à tout le monde en disant « je fais une expérience extraordinaire, je ne fais rien pas dans 3 minutes ». Voilà, au fond, la méditation, c'est revenir à cette sorte de simplicité dans laquelle on se fout la paix, et ça a beaucoup d'impact par rapport à ces violences au quotidien qui sont en train de nous ronger et qui nous permettent de nous retrouver, donc d'être un peu plus libre, de pouvoir penser un peu plus par soi-même.
Vous, Anna Krish, enfin vos personnages, en fait, ce sont des gens qui sont malheureux, blessés et qui veulent le bonheur, mais vous dénoncez ce que vous appelez l'idéologie du bonheur.
C'est clair, c'est horrible.
Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que le bonheur est partout, qu'il est facilement accessible et qu'il est surtout au travail. Moi, je suis pas certaine que ce soit comme ça que ça se passe. Et surtout, on n'est pas du tout parvenu à indiquer la tristesse, la mélancolie ou la détresse, qu'elle soit individuelle ou collective, sinon ça se saurait. Donc cette idée de dire soyez heureux, on va vous donner des hamacs ou on va vous donner des tables de ping-pong et puis tout va bien
pour
se passer.
Pour gérer votre stress,
pour gérer
un
votre
bon
stress.
Coup de ping-pong, il n'y a rien de tel qu'avec une partie de ping-pong. Effectivement, c'est terrible.
Et oui, c'est une chimère.
C'est important,
mensonge.
La question du bonheur est fondamentale. Essayer d'être heureux, c'est très important, mais la manière dont on nous dit de l'être en nous coupant de notre propre être, de ce qu'on ressent, de notre propre douleur, de notre propre solitude, rend les gens beaucoup plus fous. C'est-à-dire, la meilleure manière de rendre les gens malheureux, c'est dites-leur soyez zen. Alors là, vous êtes sûr de les rendre malheureux.
Alors ça, c'est pour vous, Fabrice Midal. Écoutez bien ce disque. C'est quelqu'un qui a beaucoup médité dans sa vie. George Harrison, My Sweet Lord. Hare Krishna, Hare Rama, c'était un morceau de 1970, My Sweet Lord, un titre dans lequel George Harrison, qui était un disciple du gourou Maharaji, clamait son admiration pour Krishna.
Estivalitude sur France Inter.
Mes invités ce matin sont Anna Krish et Fabrice Midal. Alors Fabrice Midal, vous m'avez surpris parce que vous êtes la première personne que je rencontre qui ne connaissait pas George Harrison.
Eh oui.
Vous avez entendu parler des Beatles ?
Oui.
Ah quand même, vous savez que George Harrison, c'était un des Beatles. Et il était le disciple d'un gourou indien qui était donc un adepte de la méditation. Et donc il pratiquait, en tout cas il faisait l'éloge de la méditation. Alors j'ai pensé en vous invitant que d'ailleurs, je vous ai présenté comme ça lors de au début de l'émission. J'ai pensé que vous étiez un philosophe bouddhiste, mais vous dites non. Le bouddhisme, ce n'est pas à la source de mon regard.
Ah, ça compte, c'est intéressant. Je me suis intéressé à essayer de comprendre un peu les philosophies orientales, mais mon travail aujourd'hui, c'est plutôt d'un philosophe marqué par la tradition occidentale et qui essaye de comprendre les violences du quotidien et pourquoi aujourd'hui tant de gens souffrent. Je pense que c'est ça. Et la méditation, évidemment, la méditation m'intéresse beaucoup en tant qu'elle peut être un contrepoison pour notre temps, une sorte de force révolutionnaire. Pas pour ce truc un peu niais, mais elle peut être un contrepoison parce qu'elle peut nous aider à pouvoir nous retrouver, avoir la force de pouvoir dire non et faire la paix avec justement ce qu'on parlait tout à l'heure et qu'on n'ose plus faire la paix avec notre propre douleur, notre propre chagrin.
Comment distinguer la vraie méditation qui, selon vous, est la vôtre, enfin celle en tout cas que vous essayez de promouvoir, et la méditation qu'on trouve dans le livre d'Anna Krish?
Je dirais pas, il y a d'un côté les caricatures qu'on fait aujourd'hui, et je dirais pas que la mienne, celle que j'enseigne, est la vraie. Je fais partie de tout, comme beaucoup de gens qui sont engagés dans la méditation il y a une trentaine d'années, on est un très grand nombre de gens qui essayons de réfléchir à comment elle peut faire sens aujourd'hui et de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à dire que méditer, c'est se foutre la paix. Je disais pas ça il y a 10 ou 15 ans, mais je me suis rendu compte que quand j'essayais de présenter la méditation, les gens me disaient tous à la fin, je n'y arrive pas. Je me disais, mais il n'y a rien à faire que c'est le premier moment peut-être de votre journée où vous pouvez juste être, faire la paix avec vous. Il y a rien à faire.
Alors,
mais on est pris du matin au soir dans notre boulot et tout par le fait qu'il faut toujours faire plus. Et donc on doit se sacrifier. Et donc je me suis rendu compte que dire foutez-vous la paix, ça pouvait aider.
Et on va le voir parce qu'on va écouter quelques secondes, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, de méditation par Fabrice Midal.
Vous ne pouvez pas rater la pratique. Il n'y a rien à réussir, juste être. Vous êtes assis droit, les mains sont posées sur les cuisses. Il est bon d'être dans cette posture. Ne cherchez rien d'autre. Mais vous avez le droit d'être, exactement comme ça.
C'est magnifique. Voilà, apprendre à être soi-même. Vous dites, Fabrice, se plaindre, c'est rester dans le confort.
C'est ça, parce que quand on se plaint tout le temps, on n'arrive pas à voir par où on peut retrousser nos manches et triompher des emmerdes. Or, au fond, dans la vie, il y a des emmerdes, et au lieu de se plaindre, il faut voir comment on peut triompher des emmerdes. Ça me semble une attitude plus éclairante.
Alors, Anna Krish, je dois dire que vous avez de très bons titres de livres. J'ai regardé un peu tous les livres que vous aviez publiés. « Il faut se méfier des hommes nus ». C'est pas faux, hein, finalement.
C'est un très beau titre.
C'est un très beau titre.
Il faut être très vigilant.
Ou encore traiter de savoir vivre à l'usage des embryons.
De savoir rire.
À traiter de savoir rire.
Oui.
Moi, j'ai tout de suite pensé
non.
au savoir vivre.
Oui,
mais
non,
traiter de savoir,
savoir
rire. Ben, ça, c'est pour vous,
oui,
Fabrice.
C'est un très beau, très beau.
Ah oui. Vous qui avez écrit le traité de morale pour triompher des emmerdes.
Absolument.
Ce qui est aussi un titre formidable. Et puis le meilleur, foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est presque un manifeste, ça.
Oui, absolument. Par rapport à cette sorte de dictature de ce qu'il faut toujours faire davantage, faire plus, qu'on est toujours en faute, qu'il faudrait être parfait si on n'aurait pas le droit d'être. Ça me semble important de se foutre la paix.
Alors, je vous ai demandé à l'un et à l'autre, quel était, c'est toujours difficile comme question, le son qui vous résumait. Alors, ce qui est curieux, c'est que l'un et l'autre, les sons qui vous résument sont en anglais. Alors, ça peut arriver. Alors, on va écouter tout de suite le son qui vous résume, vous, Anna Krish. Alors, c'est un extrait du film Sabrina de Billy Wilder, un film qui date de 1954, dans lequel Audrey Hepburn écrit à ses parents. Et donc, elle écrit à son père et on entend ce qu'elle dit à son père. Vous nous direz après ce qu'elle raconte parce que c'est en anglais.
Dearest father, we shall be graduating next week and I shall be getting my diploma. I want to thank you now for the two most wonderful years of my life. I shall always love you for sending me here.
Alors ça dit quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte à papa?
Elle remercie son père de l'avoir envoyé à Paris pour surmonter un chagrin d'amour.
Ah, c'est beau. C'est pour ça que vous avez eu
non,
envie de...
Non, pas du tout. C'était la suite, moi, qui m'intéressait.
Ah,
où
bah,
elle
je suis
lui
désolé.
Expliquait...
Non, je suis vraiment désolé.
Mais où elle donne un peu une leçon, justement, de bonheur, où elle explique qu'elle a compris quelle était la clé du bonheur. Être dans le monde et hors du monde.
Et d'ailleurs, vous aviez une question à poser à Fabrice Midal, à Nacriche. C'est une question qui est reliée au bonheur.
Oui, je me demande vraiment si le bonheur peut s'enseigner.
Est-ce que le bonheur peut s'enseigner,
bien sûr,
Fabrice Midal?
C'est même la définition de la philosophie. Pour Aristote, la question question du bonheur, c'est la question de la vie bonne. Donc c'est l'interrogation sur la vie bonne. Donc le bonheur ne peut certainement pas s'enseigner comme une technique. C'est ça qui est en train de nous foutre en l'air. Et la question, c'est qu'est-ce que le bonheur? Or aujourd'hui, au fond, ce que vous dénoncez, c'est l'idée que le bonheur serait une vie dans laquelle il n'y aurait plus de place pour la douleur, le chagrin, l'hésitation. Or ça, c'est une vie pas normale. Parce qu'une vie normale, il y a du chagrin. Mais comme vous dites très bien, en parlant de l'extrait de Sabrina, être dans le monde et hors du monde, au fond, le bonheur implique aussi bien de pouvoir être ouvert à la joie comme à la peine. Et si on enlève de toutes les musiques, ce qui est un peu triste, parce qu'il faudrait qu'on soit tout le temps heureux, il n'y aurait plus de musique. Donc la vie implique une certaine ouverture à l'entièreté du monde. Et donc oui, la philosophie peut nous aider, par exemple ici, à comprendre que le bonheur, c'est pas cette idée naïve dans laquelle on est enfermé, que c'est pas juste le consumérisme, mais qu'il y a quelque chose de profond, du sens de l'existence qui peut s'inventer et qu'on a inventé chacun. Donc je dirais oui, heureusement que le bonheur... pour nous, être humain peut s'apprendre, mais malheureusement, aujourd'hui, cet apprentissage est dévoyé pour nous normativer, et c'est ça qui est inquiétant. Et ce que vous dénoncez, c'est qu'on ne veut pas du tout apprendre aux gens à être heureux. On veut qu'ils ferment leur bouche, qu'ils se taisent et qu'ils sont de plus en plus consentants. On veut les empêcher de penser par eux-mêmes. On veut qu'ils deviennent le plus rapidement possible disponibles sur le marché du travail sans faire de vagues. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement inquiétant. Comment un capitalisme devenu fanatique utilise la question du bonheur et donc les sagesses orientales, la philosophie, tout pour le contraire de ce pourquoi elles étaient faites au départ. Et donc c'est ça qui est aujourd'hui inquiétant, mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que si on jette la question du bonheur, on jette la question de l'interrogation fondamentale que chacun doit se poser. Qu'est-ce qui me rend heureux pour de bon? C'est très important pour chacun de se poser juste cette question. Mais au fond, qu'est-ce qui me rend heureux, moi? Et de se poser cette question, ça nous permet de dire, ben ça, non, ça, au fond, ce n'est pas ce que je dois faire de ma vie.
Alors Fabrice Midal, le son qui vous résume, c'est aussi en anglais, c'est assez particulier. C'est un poème de Maya Angelou lors de l'investiture de Bill Clinton le 20 janvier 1993. Écoutons.
Here, on the path of this new day, you may have the grace to look up and out and into your sister's eyes. And into your brother's face, your country, and say simply, very simply, with hope, good morning.
Pourquoi cet extrait et quel est le sens de ce poème qu'on vient d'écouter en anglais?
D'abord, je trouve ça juste bouleversant que. Donc, Maya Angelou est une femme noire qui a vécu dans une pauvreté énorme, qui était quelqu'un qui est. Et qui se trouve, elle reçoit un appel du cabinet Bill Clinton en lui demandant de lire un poème le jour de son investiture. C'est un peu une tradition démocrate que lors de l'investiture d'un président, un poète vient parler. Alors c'est une chose très étrange pour nous en France. Et du reste, en France, c'est un des rares pays quand il y a la retransmission de l'investiture, on met la page de publicité pendant la lecture du poème. Mais les Américains, c'est un moment très important. Et Maya Angelou arrive et elle parle. On n'a pas besoin de comprendre un mot d'anglais. On comprend là qu'on a affaire avec quelque chose d'une autre parole, d'une parole de.
Puis d'ailleurs, une parole dans laquelle elle souhaite simplement good morning, c'est-à-dire elle souhaite une bonne matinée. Ça tombe très bien puisqu'il est 9h45 sur France Inter.
C'est une parole qui a du poids. Elle dit bonjour avec une densité très, très forte. Je lisais un poème dans une conférence il n'y a pas très longtemps, et il y a une mère de famille qui vient me voir, elle me dit « Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon fils de 2 ans Il a applaudi après, comme s'il entendait que la poésie parle d'ailleurs. Et je trouvais, et au fond, c'est ça qui se passe. Il y a dans ce poème de Maya Angelou, qui a eu donc, c'est un poème qui a eu un immense impact sur les États-Unis après qu'elle ait lu, c'est sa manière d'être. C'est sa manière d'être absolument. Moi, j'aime beaucoup Maya Angelou qui disait « La vie chérit ceux qui la vivent ». C'est des choses très simples, mais la vie chérit ceux qui la vivent, au fond, c'est tout ce que j'essayais de dire sur le narcissisme, c'est ça. C'est la vie chérit ceux qui la vivent, c'est comment trouver une force en soi, et malgré les difficultés de la vie, cette femme vient, dit quelque chose au nom d'une forme d'espérance pour le monde.
Là, je ne garantis pas la prononciation. La chanson s'appelle « Emta Nyausak Yama », ce qui veut dire « Quand vas-tu te marier ?» Et cette chanson est signée par un groupe de rap arabe vivant en Israël nommé Dam. C'est une programmation « Peace, Love and Rumous » d'Elsa Béranger.
Vous avez dit.
Ah non,
vous l'avez dit. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
Bien que nos bureaux se situent en plein cœur de Paris, nous privilégions toujours le mot anglais et l'abréviation. Notre quotidien se conjugue en réu et work in progress, en target et en B2B, en achievement et en soft skill. Voilà pourquoi je ne suis pas responsable du bonheur, mais happiness manager. En bon français, je suis la garante du bien-être des salariés.
Alors là, effectivement, c'est vrai que la société dont vous parlez dans votre livre Un monde nouveau à Nakrich s'appelle hashtag in future we believe. Donc hashtag dans le futur nous croyons. Et c'est vrai que vous parlez, en fait, vous expliquez qu'il y a en fait un tout nouveau vocabulaire de l'entreprise depuis quelques années.
Oui, maintenant dans l'entreprise on parle une espèce de franglais invraisemblable où si on ne dit pas un mot en anglais dans chacune de ces phrases on est complètement ringard, alors qu'il y a des mots français qui existent pour chacune des choses qui sont décrites par ces mots. Et donc c'est amusant de voir comment le français disparaît petit à petit.
Vous évoquez à un moment donné un de vos personnages qui part à l'autre bout du monde pour vivre une autre vie, et vous dites « changer de vie, c'est un des leitmotifs de ma génération ». Donc vous avez 33 ans, c'est ça?
Oui.
Et à 33 ans, on veut changer de vie?
En tout cas, on veut donner du sens, je crois, et on cherche du sens dans son travail. C'est un peu le cas de tous ces personnages. C'est qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus, comme disait Fabrice Midal. C'est trouver du sens. Et donc, ils sont prêts à toutes les stratégies imaginables pour arriver à atteindre ce but.
Mais faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, c'est une chose. Changer de vie à toute force pour ouvrir un restaurant vegan ou une laiterie bio, c'est autre chose.
Mais c'est précisément parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie qu'on se dit que changer les choses telles qu'elles existent va nous permettre d'être plus heureux.
Alors, vous appartenenez à ce qu'on appelle la génération des millennials, c'est ça?
Alors, je ne sais plus. Parce
moi,
que
je ne sais pas non plus. X, Y ou millennial?
Je crois que je suis X ou Y. En tout cas, oui. On ne sait pas bien. De toute façon, tout ce vocabulaire sur la génération.
Alors, vous êtes plutôt la génération Y.
Je crois.
Oui, parce que moi, je suis la génération X, c'est-à-dire la génération punk. Mais ça n'a évidemment strictement rien à voir avec cette génération-là. Vous vous dites, ça ne veut rien dire.
Bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'a pas de fondement scientifique. On ne sait pas si une génération, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 50 ans. Donc aujourd'hui, on nous balance ça dans les médias, on nous dit vous êtes la génération XY pour justement dépeindre ce narcissisme-là que vous expliquez Fabrice Midal, ou en tout cas pour dire les jeunes d'aujourd'hui sont des dégénérés, ce qui me semble pas être une évidence absolue.
Vous dites je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui passent leur journée sur YouPorn ou à se prendre en selfie ou à se prendre en selfie sur YouPorn.
Non, c'est vrai que je suis pas certaine que ce soit le cas de tous les jeunes gens aujourd'hui. Il y a aussi une pudibonderie, il y a plein de choses qui sont pas aussi évidentes et qui sont pas la manière dont on nous dépeint.
Et là, ça renvoie à ce que dit Fabrice Midal, parce que Fabrice, vous dites, découvrir à 20 ans que je ne pouvais rester là sans rien faire, que je pouvais rester là sans rien faire, m'a libéré. Toute mon enfance, on m'avait dit, peut mieux faire.
Oui, ça, c'était la découverte de la méditation comme manière de trouver l'énigme de son propre désir. Et au fond, c'est ça dont on parle, c'est que trouver ce qu'on veut, son désir, c'est pas si facile. Ça demande une certaine écoute. C'est ça, au fond, le narcissisme. C'est, on pourrait dire, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire être narcissique? Ça veut dire être prêt à écouter l'énigme de son propre désir, le rencontrer, pour ne pas être victime du désir des autres et ne plus être manipulé.
Et alors, je sais pas, c'était dans un des nombreux articles qui vous est consacré, mais dans cet article, vous dites « Méditer m'a sorti d'une enfance privée d'amour ». Vous avez eu une enfance privée d'amour?
Oui, absolument. Et c'était... moi, je voulais toujours bien faire et j'étais toujours à côté. Quand j'étais enfant, j'ai participé à un concours de châteaux de sable, c'est un peu la saison. Et alors, du coup, j'avais bien regardé dans les livres comment étaient les châteaux au Moyen-Âge. Alors, je fais mon château comme il faut, avec les petits créneaux et tout. Et puis, au bout d'une heure, je me retourne et je vois, personne n'a fait un château au concours de châteaux de sable. Et c'était ma sœur qui a gagné le premier prix, parce qu'elle avait fait une coccinelle. Et une coccinelle, c'est une grosse boule, une petite boule. Mais elle avait pris un pot de confiture de fraises à la maison pour faire l'étage de la coccinelle. Évidemment, ça avait fière allure. Et au fond, j'ai mis longtemps à comprendre cette histoire. C'était qu'en voulant absolument rentrer dans la norme et bien faire, je m'étais coupé de la vie en moi. Et qu'au fond, peut-être que c'est ça la méditation, c'est on se fout la paix, on s'autorise à être. Et ça nous rend pas plus impuissants, mais au contraire, ça nous donne une forme de créativité et de capacité à être plus en rapport à la vie.
En même temps, je me souviens d'une phrase que Bernard Werber m'avait dit. Il m'avait dit le clou qui dépasse appelle le marteau. Il avait l'air de se considérer qu'il avait lui-même reçu quelques coups de marteau dans sa vie.
Oui, on a tous reçu des coups de marteau. Et la question, c'est comment on renonce pas? On renonce pas à ce qui nous appelle. On renonce pas à vouloir essayer de préserver l'étonnement, l'étincelle pour soi et dans le monde. Donc ce dont je parle a beaucoup à voir avec une forme de révolte. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Camus. Camus dit, on a tort, on croit que la révolte, c'est un incident. Mais l'être humain, tant qu'il est vivant, parce qu'il y aura toujours de l'injustice, de la souffrance, ne peut pas ne pas être révolté. Et qu'au fond, la nature de l'être humain, c'est d'être révolté. Et au fond, ce que je cherche à comprendre, c'est comment on peut être heureux tout en étant révolté. Comment être révolté sans que ça devienne de la haine, mais ça devienne une énergie de courage, une énergie bienveillante pour aider le monde. Et je crois que c'est ça qu'il faut réussir à penser ensemble aujourd'hui.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Je vous rappelle que vous êtes invité de l'émission Estivalitude et que dans cette émission, nous sommes au cœur de l'été, bien sûr, le 31 juillet, et que dans cette émission, eh bien, je vous pose une question brutale, qui est, quel est votre plus incroyable souvenir de vacances? Alors, Anna Krisch, vous, c'est un souvenir assez... Il faut savoir, Anna Krisch, que je ne savais pas, que vous avez des origines partiellement polynésiennes.
Oui, ma mère est polynésienne.
Et donc, vous parlez d'un îlot à Moorea.
Oui, un petit motu, comme on les appelle.
Un imotu.
Un petit motu, qui est dans un petit îlot en face de l'île principale, et où on passait nos vacances quand on était enfant, et qui étaient voilà, ces étés d'enfance où on ne fait rien, et où on attend que le temps passe.
Mais vous voulez dire que dans cet îlot, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a strictement rien.
Non, il n'y a rien, on pêche et puis on attend.
La Polynésie que vous avez connue, elle ressemble à la Polynésie des cartes postales ou en fait il y en a deux?
Ouais, elle existe, cette Polynésie des cartes postales. Ce sont vraiment des paysages sublimes, il y a des endroits extraordinaires, mais il y a autre chose évidemment, il y a une réalité qui est beaucoup plus complexe que celle que de la carte postale par définition.
Alors vous, Fabrice Midal, vous c'est un souvenir de voyage à Rome.
Bah, tout a commencé là, j'étais à Rome, je me promène et puis... Dans un musée, au Palais Barberini, je vois le tableau de Caravage, Narcisse. Et comme tout le monde, hein, comme j'imagine tous les auditeurs, pour moi, Narcisse, c'était horrible. C'est ce type qui ne pense qu'à lui, qui
se regarde dans un miroir, voilà. Enfin, ou dans la rivière.
Et là, je vois le tableau et ça montre tout autre chose. Et c'est un des tableaux les plus célèbres sur Narcisse. Mais je l'avais vu dans les livres.
Qui est dans votre livre, Narcisse n'est pas égoïste, vous le reproduisez.
Je l'avais regardé dans les reproductions, mais j'avais pas fait attention. Puis là, je le regarde et je me dis, mais... Il y a un truc que j'ai pas compris, parce que là, ce que nous montre ce tableau, qui est un tableau, mais un chef-d'œuvre, c'est l'innocence de se rencontrer. Et le tableau fait comme un cercle entre Narcisse et son image. Il y a un cercle d'une sorte de complétude, d'apaisement, mais aussi de complète innocence. Alors je me dis, c'est étonnant. Pour nous, le Narcisse est pervers, c'est un sorte de on imagine un type vieux, laid, un peu pervers. Et là, on voit un jeune, très beau, complètement innocent, complètement simple, dans la magie de cette rencontre, où on sent que d'un seul coup, on est vrai. Vous savez, ça vous est... Au fond, Narcisse, on fait tous l'expérience. Vous êtes là, dans une réunion, il y a un truc qui va pas, puis d'un seul coup, vous parlez, puis vous sentez que vous êtes en adéquation avec vous, et vous dites quelque chose qui est vrai, et tout le monde entend, et il se passe quelque chose. Eh bien, c'est ça, l'expérience du Narcisse. C'est pas du tout être enfermé en soi-même, cette expérience d'innocence.
Merci beaucoup, Anna Krisch et Fabrice Midal.
Merci.
Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude.
Alors, ça, on est content.
Ah bah c'était, oui. c'était l'essentiel.
J'avais le trac. Est-ce que je vais avoir assez
d'estivalitude?
Alors,
je me dis,
en me foutant un peu la paix en temps, c'est que je vais peut-être y arriver, mais je suis content.
Alors, Anna Krisch, votre livre Un monde nouveau est donc paru chez Julliard. Fabrice Midal, Narcisse n'est pas égoïste, est sorti chez Flammarion. Alors, il y a un livre, Émerveillement, qui paraîtra le 10 octobre, c'est pas tout de suite, aux éditions de La Martinière. Et vous êtes en ce moment sur France Culture, tous les jours, dans 3 minutes de philosophie, pour redevenir humain. Vous pouvez réécouter et podcaster, bien sûr, cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette Medeviel qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée par Corinne Valente, Astrid Landon, Saad Merzak et Pierre Goulencourt. À la technique aujourd'hui, Tristan Gratalon. Notre boutique éphémère réouvre demain dès 9h sur France Inter. Je recevrai un spécialiste des médias, Bruno Patineau, et un écrivain journaliste, Quentin Jardon. Dans quelques minutes, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante, mais il est 10h sur France Inter.